Podcastobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Roland Hérabédian.
Bonjour.
Vous êtes à Paris. Habituellement, votre port d'attache, on pourrait dire, c'est Marseille. Vous dirigez l'ensemble Musica 13, que vous avez fondé vous-même, en 87 déjà, on pourrait dire. Il y a également une autre aventure liée à cela, un petit peu antérieure, mais qui fait partie également de cette globalité qui s'appelle le chœur contemporain. On peut dire que votre nom, vous dirigez donc ces ensembles, votre nom et ces ensembles sont souvent liés à la musique contemporaine, vocale, mais pas que, on en parlera. Également, mais pas que contemporaine, puisque c'est vrai qu'on a, même si vous travaillez énormément avec des compositeurs vivants, des compositeurs contemporains, vous reprenez, vous dirigez également des œuvres du passé. On pourrait dire que votre ensemble, l'actualité la plus proche, ce sera le 10 juin, où Musica 13, au programme, il y aura aussi bien sa prouve, justement, là, j'allais dire, la palette aussi bien du Ligeti, du Liszt et du Philippe Gouttenoir. C'est donc un concert qui aura lieu le vendredi 12 juin à 21h15 pendant les soirées musicales de Grimaud à la chapelle Notre-Dame de la Côte. Également le 24 juin à la Vieille Charité à Marseille, où là vous jouerez, vous dirigerez une œuvre de Zed Moultaka qui s'intitule L'autre rive, donc un compositeur contemporain avec lequel vous avez déjà travaillé antérieurement. Donc cette autre rive qui sera également reprise le 16 juillet à l'abbaye de Fontfroid et le 21 juillet au festival d'Aix. Et enfin, pour clore cette actualité intense, donc Musica 13 sera le 28 août au festival de la Chaise Dieu, où cette fois-ci il y aura des œuvres de Bach, Stravinsky et Philippe Hersant. Donc aussi pareil, une palette assez vaste. Alors, parlez-nous justement un petit peu de cet ensemble Musica 13 que vous avez fondé en 87, qui a un peu évolué, je pense, par rapport à la façon, à l'idée, pourquoi l'avoir créé justement comment on crée un ensemble d'abord? C'est une volonté? C'est une réunion de personnes? Quelle est la petite idée derrière tout ça?
Vous savez, c'est une question que beaucoup de jeunes chefs me posent. J'avoue, je ne sais pas y répondre. En fait, c'est la volonté de vouloir faire de la musique qui fait qu'on finit par créer un ensemble. C'était le hasard. J'ai fait des études de direction d'orchestre et par hasard, je me suis retrouvé devant des chanteurs, des amis, des copains. Et puis ça marche. Je crée une pièce de Betsy Jolas et puis voilà, de fil en aiguille, on se dit tiens, là-bas, il y a quelqu'un qui sait faire ça. Et du coup, on me commande des pièces. On me permet de commander des pièces plutôt. Et puis on finit par être connu pour ça. Alors moi, je me suis quand même vraiment attaché à une chose, et vous le disiez tout à l'heure, c'est que je ne voulais pas tomber dans un ghetto. C'est-à-dire que je fais la création avec un bonheur absolu. Enfin, j'aime beaucoup ça, mais je ne voyais pas, en tout cas à cette époque, il faut bien resituer les choses dans le contexte, je ne voyais pas qu'on puisse faire de la musique de façon saucissonnée. C'est-à-dire que je n'imaginais pas ne faire que de la musique contemporaine, qui était dite contemporaine à cette époque-là, avec une connotation très forte. Donc, voilà, j'ai voulu faire des œuvres, et non pas des époques, en fait. Quand on fait Via Crucis de Liszt, c'est pour moi, Liszt, j'aime bien Liszt, mais cette œuvre-là, pour moi, elle était porteuse d'avenir. Elle contient quelque chose qui dépasse son époque. Et c'est ça qui m'intéresse dans les œuvres, en fait. C'est comment elles peuvent être un chaînon manquant ou permettre justement à une chaîne comme ça de vivre au-delà des siècles. Et c'est plus les œuvres comme ça qui m'ont intéressé. Comme j'ai pu faire de nombreuses fois Noce de Stravinsky, parce que cette œuvre-là, pour moi, est emblématique de ce que va devenir le XXe siècle. Après, peut-être plus que le sacre d'ailleurs. On a beaucoup parlé du sacre, mais les noces, c'est une œuvre incroyable de Stravinsky. Donc c'est un peu comme ça que j'ai imaginé d'abord l'ensemble. Je l'ai imaginé aussi avec quelque chose qui n'était pas utopique, mais qui était faisait partie de mon naturel. C'est que j'imaginais que je pouvais, avec cet ensemble, apporter une couleur un peu différente. Avec des voix, pas seulement des voix, mais quelque chose qui serait plus, entre guillemets, méditerranéen. Je ne revendique pas à fond, à 100%, cette chose-là. Mais le fait d'avoir beaucoup travaillé, par exemple, les œuvres de Ohana...
Ce que j'allais vous dire.
Voilà. Ça m'a donné, je pense, le goût d'une certaine couleur. J'avais déjà le goût du timbre, de cette recherche-là, j'ai toujours eu. Je dirais un peu malgré moi. Mais par le biais de Ohana, je crois que j'ai trouvé comme quelqu'un qui travaillerait, des quatuors de Beethoven tout le temps et qui finirait par trouver un son. Finalement, je crois qu'avec mes ensembles, on a pu trouver une couleur qui me correspond. Oui.
Pour revenir sur ce que vous avez évoqué, sur cet aspect de sortir du ghetto, c'est vrai qu'on a tendance à dire, à étiqueter. Alors justement, peut-être moins aujourd'hui qu'autrefois, vous nous direz qu'au moment de la création du chœur en 78 ou de l'ensemble en 87, c'était différent. Est-ce qu'il faut se battre aussi justement pour dire non, on n'est pas qu'un ensemble contemporain, justement faire ces passerelles, comme vous l'avez dit, ou comme les programmes que j'ai lus tout à l'heure, parlant justement de Liszt à Ligeti, Gutmore, etc. Est-ce que, au-delà des choix personnels, évidemment, parce que ce sont, j'imagine, avant tout des choix personnels, mais est-ce que, malgré tout, on doit quand même se battre en permanence pour imposer cet éclectisme et cette vision globale de la musique ?
Alors, on doit se battre tout le temps. D'abord, on doit se battre quand même pour défendre la création. Ça, c'est clair. Hein.
Plus aujourd'hui qu'avant, ou c'est pareil, d'après vous ?
Je dirais, je ne sais pas. Bon, c'est difficile parce que le temps a passé, la notoriété sert aussi. Hein, donc, on me fait davantage confiance qu'autrefois, peut-être. Donc, j'ai moins à défendre le fait que je fais, moi, de la création. Mais globalement, par exemple, pour être un peu trivial, mais pour vendre nos concerts, si on veut les vendre dans des lieux qui ne sont pas affectés, justement, à cette musique dite contemporaine directement, il faut se battre. Il faut se battre parce que les gens ont peur. Parce que les gens ont peur on se demande d'ailleurs de quoi. Parce que le public n'a pas peur, en fait. Quand le public est dans la salle, il est absolument, en général, conquis. C'est très souvent quand nous... Enfin, vous voyez, je mélange les musiques. Je ne le fais pas systématiquement. Mais quand on le fait, il nous arrive souvent de faire Monteverdi et puis Ligeti. Eh bien, les gens, à la fin, nous disent « On était venus pour Monteverdi, mais merci de nous avoir fait découvrir Ligeti. » Donc, bon, ça, ce sont des choses qu'on vit depuis 20 ans.
Hein, ce que j'ai vous donné, même ce qui n'est même pas plus ancien, carrément. Il y a toujours eu l'impression que c'est l'éternelle musique contemporaine... qui ne peut pas parler au public, au grand public, etc. Et finalement, on se rend compte que régulièrement, c'est tout le contraire. Mais c'est quand même, ça reste, on a l'impression, malgré tout aujourd'hui, où les gens peuvent peut-être parfois être plus ouverts, ça reste quand même un combat.
Moi, je crois qu'en fait, ce sont davantage les programmateurs qui ne sont pas si ouverts que ça.
Plus conservateurs que
ils sont plus conservateurs que leur propre public. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on met les moyens pour aller vers le public en amont, hein, c'est-à-dire autour d'œuvres qui sont plus complexes, quand on met un peu de moyens pour expliquer les choses, pour leur permettre au public d'accéder à des répétitions, des choses comme ça, enfin, des choses qui sont simples, que tout le monde fait très volontiers d'ailleurs, à ce moment-là, tout évolue. C'est une chose, moi, qui me frappe beaucoup de voir que souvent, des programmateurs disent « mais mon public », comme une espèce d'appartenance comme ça, comme si les gens n'étaient pas libres de penser, libres d'avoir aussi... Et puis libres de finalement de se tromper. La création, l'art, c'est aussi tout ça. On peut se tromper, on peut faire des choses, on peut aller voir quelque chose sans juger. Moi, j'ai beaucoup... j'étais comme ça, mais enfant, je suis venu à la musique contemporaine parce que je ne connaissais pas et parce que je ne jugeais pas. Je me disais, ça doit être bien. Puisqu'on en parle un peu, c'est que ça doit être bien. Et peu à peu, j'allais. mais je n'ai pas jugé. Et cette façon de dire qu'est-ce que c'est ça, c'est n'existe pas, c'est une chose, voilà, il y a beaucoup de gens, mais des gens cultivés, c'est ça qui me choque, c'est-à-dire des gens cultivés qui ont une habitude quand même d'aller dans les musées, etc., sont capables d'aller voir des installations très très pointues et ne sont pas aussi capables d'aller entendre de la musique d'aujourd'hui tout de suite là, sans qu'on les y ait poussés, sans qu'on les ait amenés par des artifices X ou Y. Donc là, c'est vrai qu'il y a ce problème-là. Ceci étant, je pense que les directeurs de salle, enfin pour dire les choses un peu globalement, pas, évidemment pas toutes, heureusement, sont souvent plus frileux. Les gens vont plus vite. Nous, on voit bien à Marseille le travail que nous faisons auprès du public qui maintenant porte ses fruits. On refuse du monde au concert. On y fait de la musique contemporaine. On refuse du monde au concert. Donc finalement, c'est pas si mal.
Pour revenir, vous avez parlé de votre enfance ou cette attirance pour la musique contemporaine. Une autre question pour savoir, c'est l'attirance pour la direction. Je crois que vous êtes intéressé à la direction assez rapidement. Formation de pianiste, je crois.
Oui, oui,
mais
oui.
Qu'est-ce qui attire ? Est-ce que c'est une révélation, un choc ? C'était ancré en vous ? Est-ce que c'est avoir assisté à un concert ? Est-ce qu'il y a une anecdote par rapport à ça ? Ou finalement, c'était vraiment votre fort intérieur depuis toujours ?
Non, c'est-à-dire que, en fait, je me suis rendu compte très vite que j'avais une possibilité de travailler avec des groupes assez facile. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Et ça m'a donné cette idée-là. Je me suis dit, mais alors peut-être que je peux faire ça. Je ne suis pas sûr d'y avoir pensé d'emblée. Mais quand j'ai été étudiant, je me suis dit, oui, voilà, avec ça, je pense que je vais pouvoir faire de la musique. C'est plutôt ça qui m'a guidé, plutôt que le fait de vouloir être, entre guillemets, chef. Hein, vous savez, chef, ça veut dire plein de choses.
Oui.
Hein. Voilà. Donc, c'est plutôt ça qui m'a guidé, sachant que bon, l'instrument, pour moi, allait être de toute façon quelque chose de relativement restreint. Je n'étais pas un pianiste de premier plan. Donc, j'ai beaucoup appris du piano, j'ai beaucoup fait de piano, mais je n'ai pas été un pianiste qui pouvait faire de... Enfin, ma vie ne pouvait pas être le piano, ce n'était pas possible. Donc, il fallait trouver quelque chose quand on veut faire de la musique. Mais ce n'est pas un pis-aller du tout. Ce n'est pas du tout un pis-aller.
Non, non, pas du tout. De vous en parler, on avait l'impression.
Mais pas du tout, pas du tout. Ça a été ma chance incroyable, justement, au contraire.
Ça a été une révélation assez rapide.
Ah, mais ça a été une révélation absolue. Enfin, moi, si vous voulez, j'ai toujours été intéressé par le son. J'ai toujours, enfant, j'écoutais les moindres bruits, que ce soit de la ville, de la nature. J'étais capable de reconnaître toutes les marques de voitures qui passaient, enfin, à l'oreille, comme ça. J'avais ce goût-là, des sonorités. Beaucoup ont ça. Hein. Enfin, ce n'est pas une exception du tout. Mais je crois que l'orchestre, les voix, tout ça, ça contient tout ça. Ça contient tout ce possible, c'est-à-dire ce que finalement peut-être un instrument ne contient pas complètement.
Oui, c'est ce que j'ai vous demandé, c'était la question suivante qui venait obligatoirement, c'est la voix, puisque qui est quand même l'instrument principal autour de laquelle vous travaillez. Pareil, comment cette fascination, vous avez parlé pour les sons, etc., mais la voix en particulier, est-ce que dans votre éducation musicale, dans votre jeunesse, est-ce que pourquoi ce rapport si particulier ? C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que la voix, c'est l'instrument au-dessus de tous, mais vous, personnellement ?
Alors moi, je n'avais pas la culture de la voix. Je vous dis tout de suite, j'ai détesté les chorales, par exemple. Je n'aimais pas l'esprit, je n'aimais pas ça. Enfin, je trouvais ça boy scout. Enfin, je vraiment détestais ce milieu pendant très longtemps. Du coup, ça m'a obligé.
Un rejet, il y avait vraiment un rejet.
Et puis, du coup, ça m'a forcé à imaginer moi-même, une fois que j'étais devant, de l'autre côté, des conceptions, si vous voulez, pour ces chœurs, par exemple, des choses différentes. C'est peut-être pour ça que je suis allé si facilement vers la musique contemporaine, d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que je suis venu à la voix ? Là, on est dans un terrain qui est peut-être un peu intime, mais je crois que me souvenir, enfin, que tout petit, j'ai entendu mon père chanter une fois. Et je me suis dit, quel imbécile, pourquoi n'a-t-il pas fait de la musique ? Ça m'avait bouleversé. Et je pense que ça a dû évidemment jouer. Après, je ne suis pas allé vers la voix si naturellement. Ce que j'ai ressenti tout le temps, c'est un chant intérieur assez fort, je crois. C'est-à-dire, j'étais quelqu'un qui chantait intérieurement. Je suis toujours ça. Je ne suis pas quelqu'un qui chante. Je suis quelqu'un qui chante intérieurement. Et le chant intérieur m'a amené vers ça. C'est-à-dire, la ligne mélodique m'a amené naturellement vers la voix, vers le chant. Hein. Ça, c'est normal. J'ai un peu travaillé avec Pierre Barbier qui disait toujours chante, chante, chante.
Est-ce que justement, par rapport à ce rejet de ce que vous citiez au début, les chorales, etc., qui vous a poussé peut-être plus vers l'utilisation que les compositeurs contemporains, la façon dont ils intègrent la voix dans leur création, c'est l'ouverture d'esprit, l'éclectisme qu'on a évoqué au début d'entretien, était déjà présent en vous, à vos débuts
Oui, tout à fait. Si vous voulez, c'est un comportement qui est différent. On ne va pas dans un ensemble comme ça, pour d'autres raisons que celles de faire du son, de la musique, et d'être vraiment accroché à quelque chose qui est un objectif commun pour tous. Il n'y a pas d'objectifs, si vous voulez, parallèles, qui sont sociaux, ou je ne sais quoi, ça. Bon, en tout cas, beaucoup moins. Et je pense que pour moi, c'était une chose plus saine. Je voulais que les gens qui voulaient bien me suivre viennent parce qu'on faisait de la musique, et pas parce qu'on s'y rencontrait. Ou qu'on faisait, on passait de bons moments, etc. Ça, j'avais du mal avec ça. Donc voilà, forcément, en voulant faire de la musique. Et puis, je dois dire, et je le dis souvent d'ailleurs à mes étudiants ou dans les masterclass, que en fait, quand j'ai fait de la musique contemporaine avec des gens qui étaient des amateurs au début, certains ne seraient jamais venus chanter si ça n'avait pas été de la musique contemporaine. Ils seraient jamais venus. On a vu venir des gens qui sont venus par curiosité, c'est-à-dire une autre population qui vient se demandant qu'est-ce que ça peut être ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus créatif, de plus inventif ? Ils viennent Et puis voilà, ils sont pris dedans, ils apprennent tout, le solfège, etc. Ils deviennent excellents.
Ce que je vais vous demander, est-ce que le résultat finalement n'est pas plus fascinant pour quelqu'un qui arrive complètement presque vierge, sans des préconçus ou autre ?
Je pense que c'est... Alors, c'est peut-être une chose qui se perd, en tout cas, moi je le sens moins, parce que forcément je n'ai plus, si vous voulez, ce contact premier. Maintenant, les gens qui viennent, on voit Musique à 13, sont des chanteurs absolument excellents, qui sont, voilà, que j'auditionne, on est dans une autre démarche, qui est plus professionnelle, si vous voulez. Et j'espère que les jeunes, enfin en tout cas maintenant, continuent dans cette démarche-là, c'est-à-dire d'ouvrir des portes à des gens qui serait pas venu forcément. Moi, ça m'a beaucoup appris aussi cette chose-là, comme ça m'a beaucoup appris de travailler avec des gens qui n'étaient pas parfaits non plus. Parce que de là, on tire quelque chose qui est, vous savez, d'un mauvais piano, on tire des sonorités inouïes. Parce qu'il faut inventer les choses. Ce n'est pas un mauvais piano simplement parce que mécaniquement il fonctionne pas, mais ça. Il peut y avoir des choses à inventer, à tirer de ça. Et c'est plus riche souvent que d'avoir des choses absolument parfaites et puis avec lesquelles... Parce que là, il faut que soi-même, on soit... comment aller au-delà, si vous voulez, de l'invention quand tout est déjà très ouvert, tout est très facile. C'est difficile. Je crois que, d'ailleurs, les compositeurs le disent souvent, quand il y a quelques contraintes, ils préfèrent qu'il y ait des contraintes plutôt que trop d'ouverture. Quand on leur dit, voilà, il faut, moi j'aimerais avoir une œuvre, mais un peu comme ci ou comme ça, non pas avec des contraintes d'ordre... Enfin, je laisse beaucoup de liberté aux compositeurs quand ils écrivent, je leur demande pas de... Il n'y a pas de cahier de charge, mais quelquefois, quand on leur dit, écoutez, c'est pas possible d'avoir plus de 3 instruments et d'avoir ceci, quelquefois c'est une contrainte qui peut être intéressante et qui permet d'avoir des œuvres magnifiques. C'est la même chose. Hein.
Par rapport à toutes ces idées... Au moment de votre formation et vos débuts, entre guillemets, professionnels, quelles ont été les rencontres qui vous ont vraiment soit poussé, soit porté, soit conforté dans vos visions qui commençaient à prendre forme ?
Alors, les premières personnes, si vous voulez, moi j'ai été étudiant en musicologie et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup Rechleff, d'avoir Christine Pro, d'avoir Marcel Frémiot comme prof. Et c'est sûr que c'était des gens qui étaient très ouverts à la pratique contemporaine, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc ça m'a beaucoup appris. Par la suite, très rapidement, c'est Oana qui m'a ouvert et m'a conforté dans mes choix, en fait. Je l'ai rencontré, j'étais jeune, mais j'étais plein de doutes, ce qui est bien normal. Et je me demandais si mon instinct était bon. Et lui-même m'a pas dit « oui, ton instinct est bon ». Mais j'ai bien vu qu'on faisait un chemin parallèle, en fait. Et je crois que ça m'a apporté plus que tout.
Est-ce qu'avant de le rencontrer, quelle était votre appréhension de sa musique et qu'est-ce qu'elle représentait pour vous à ce moment-là, avant qu'il y ait une communication entre vous avec...
Mais je pense que ce qui l'a lui intéressé dans notre rencontre, c'est que je ne l'ai pas questionné sur sa musique, je l'ai senti. C'est une musique qui m'est venue naturellement, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, elle était évidente. Je savais que ça sonnait comme ça. Je savais qu'il fallait utiliser tel ou tel moyen pour qu'elle sonne. Je savourais la liberté qu'elle contenait, déjà, et qui, pour beaucoup de musiciens, étaient des contraintes, au contraire. C'était des choses pas claires. Pour moi, c'était, au contraire, quelque chose qui me laissait une part d'invention nécessaire et très intéressante. Donc, et ça, je crois qu'il a parfaitement compris, et je pense que c'est ça qu'il a aimé, c'est que j'ai eu cet instinct assez naturellement de cette musique-là. Pourquoi ? Je ne sais pas.
Avec le recul, comment vous voyez cette rencontre ?
Ah, pour moi, c'était une chance formidable. Hein. C'était une chance formidable. C'est, je la dois d'ailleurs à Christine Pro, qui avait fait une thèse sur Oana et qui m'avait permis de le rencontrer. Ça a été une chance formidable parce que j'ai fait évidemment beaucoup de ces musiques, beaucoup d'enregistrements, beaucoup de choses comme ça. Et en 2013, vous savez qu'en 2013, on fêtera les 100 ans hein, de la naissance de Oana. Donc, on compte bien participer largement à cette chose-là. Moi, en tant que chef, pour un certain côté, mais Musique à 13 en tant qu'ensemble, évidemment aussi. Mais qu'est-ce qui il m'a apporté d'autre, si vous voulez, je crois, une façon d'être, je pense, qui était très importante. C'est-à-dire, vous savez, c'est le compositeur qui m'a dit « reste à Marseille ». Ne viens pas à Paris, là-bas à Marseille tu vas pouvoir travailler. Je ne lui en ai pas voulu, jamais voulu, mais je me suis dit, mais est-ce qu'il a eu raison? Et maintenant je lui dis, mais oui, il a eu bien entendu raison. C'est-à-dire que je peux travailler dans des conditions que aucun Parisien n'a, enfin, ou très peu. Et puis finalement avec une liberté qu'on n'a pas quand on est pressé. On a potentiel de temps qui est plus important qu'à Paris, parce qu'on ne se déplace pas, on est là. Hein. Donc c'est plus facile pour beaucoup de côtés, le TGV aidant, c'est une chose formidable, mais je crois quand même que ce conseil-là avait été très, très important, c'est-à-dire il en voulait beaucoup au milieu parisien, en tout cas sur la fin de sa vie, et voilà. C'était une rencontre amicale très forte.
J'imagine que le centenaire sera aussi l'occasion de remonter un peu à la surface sa musique, même si son nom est connu. C'est quand même une musique qui n'est pas jouée, on va dire, de manière délirante aux quatre coins du monde. Comment justement, alors on peut prendre cet exemple-là, mais l'entretien des répertoires sur un compositeur qui a été contemporain, que vous avez connu, qui est depuis décédé, comment justement entretenir une mémoire des répertoires, les faire jouer surtout, parce que c'est comme ça l'essentiel, c'est que la musique soit jouée, enregistrée parfois, il y a une trace, mais surtout de la faire jouer en permanence, c'est aussi quelque chose, j'imagine, important et essentiel pour vous.
C'est absolument essentiel, et je crois que justement, c'est ce qu'il souhaitait le plus, c'est qu'elle soit jouée. Il se voulait être un anonyme du XXe siècle, il n'en est pas loin. Mais par contre, la musique est davantage jouée par, et en tout cas aimée par les musiciens eux-mêmes. Ils la portent avec beaucoup d'envie, de bonheur, cette musique. Elle a une chose qui est, moi, qui me passionne en fait, et qui pose problème aux penseurs du XXe siècle, c'est-à-dire qu'elle réclame, dans une certaine mesure, une transmission orale. Mais je pense que c'est une façon d'aller finalement davantage vers l'avenir, parce que la transmission orale, c'est ce qu'on a perdu et c'est ce qu'on tente de retrouver maintenant, hein, quand on voit tout ce que l'on fait avec les musiques du monde, etc. Je pense que c'est une démarche qui est très intéressante. Alors quand je parle de transmission orale, c'est pourquoi ? C'est parce que ce n'est pas un compositeur qui, comme Debussy d'ailleurs, qui écrit de manière absolument parfaite, c'est-à-dire que dans les années 50-60, quand il écrivait, d'autres qu'on connaît bien écrivaient avec une rigueur absolue, ce que lui ne faisait pas. Il laissait une espèce de un champ de liberté qui était à la fois voulu et à la fois faisait partie de sa nature, bien entendu. Mais je crois que cette chose-là, c'est la chose la plus forte qu'il y a dans cette musique. Je sais qu'il y a un instrumentiste, un pianiste qui avait dit « ça n'est pas un grand compositeur parce qu'il a besoin de l'interprète ». Je pense exactement l'inverse. Je pense que c'est un grand compositeur parce que les interprètes le magnifient. Je pense que c'est plus important. On se pose des tas de questions sur l'interprétation.
Oui, c'est ce que j'allais dire, vous tendez un peu une perche. Quelle est votre vision justement de l'interprète et vous, en tant que le passeur d'une œuvre, le lien, le go-between, comme ça.
Vous savez, là, une chose que, aussi qu'elle a pu me dire et qui était très importante, c'était... mais l'œuvre, on a créé des pièces, hein, il a écrit des pièces pour nous. Il me disait, mais elle t'appartient. Elle ne m'appartient plus. Ça, c'est une démarche quand même qui n'est pas fréquente, hein. L'œuvre t'appartient, fais-en ce que tu dois en faire. Et donc, ça m'a beaucoup appris, ça. C'est-à-dire, ça m'a permis de me libérer, finalement. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il ne s'agit pas de délirer par rapport à une partition qui est existante du tout. Mais il s'agit de comprendre qu'en fait, la musique, elle va au-delà de l'écriture, bien entendu. Ça va bien au-delà de l'écriture. Et le jazz nous le montre. Enfin, toutes les pratiques, finalement, que moi, j'estime beaucoup, enfin, la musique baroque nous le montre. Que la musique, elle n'est pas une, elle est multiple. Enfin, et c'est une aberration d'une période, en fait, de notre XXe siècle, que de penser que les choses sont entendues. Vous savez, il y a encore des compositeurs comme ça qui disent « Non, on ne bougera pas d'un iota, c'est entendu, c'est comme ça ». C'est très entendu, bien entendu, mais parfois c'est stupide. Et la question est qu'il faut, permettre un tout petit peu d'élasticité pour que les choses vivent. Quelquefois, un groupe est très différent d'un autre et il faut adapter un peu des choses ou il faut faire vivre différemment une longueur, un mouvement, une petite chose, camoufler un défaut par autre chose. Enfin, ça, ce sont des choses que la musique de Wana permet et qui est une chose merveilleuse.
Quand on vit comme ça quelque chose d'aussi intense artistiquement, musicalement, humainement, j'imagine aussi, est-ce qu'il y a aussi parfois de temps en temps une crainte, de peur justement de l'effet inverse et d'une démarche que vous venez de décrire plutôt ouverte justement vous de votre côté de rester focalisé là-dessus et de, alors évidemment vous n'avez pas joué que du Johanna pendant toute cette période, mais est-ce qu'il y a des craintes parfois personnelles par rapport justement à être d'aller trop dans une direction, d'être trop centré sur un répertoire ou sur une vision de la musique, sur une approche de la musique, ou jamais?
Non, pas du tout. Moi, je crois, en tous les cas, depuis les 10 dernières années, je l'ai largement montré avoir fait...
Oui, non, je parlais plus plutôt au début de l'ensemble, ou quand vous travaillez, au moment où vous avez travaillé avec lui, par exemple.
Alors, au moment où j'ai travaillé avec lui, évidemment, il m'a fortement conseillé, y compris en me disant « tu devrais jouer tel ou tel compositeur », etc. Ça fait partie des choses qui sont d'ailleurs à la fois bonnes et pas bonnes, on le sait très bien. Hein. Il faut ensuite savoir sortir de ça, mais c'est tout le problème de l'enseignant et celui qui est enseigné, bien entendu.
Couper le cordon.
Il faut couper le cordon, évidemment. Mais c'est-à-dire, le problème, c'est de le couper intelligemment. Hein, c'est-à-dire de ne pas partir carrément de l'autre côté. C'est à l'opposé, c'est absurde. Enfin, la question n'est pas là du tout. La question qu'il fallait que je me pose, c'est qu'est-ce que moi je veux faire ? C'est ça. Moi, je crois que j'ai à peu près répondu. Enfin, et je n'ai pas fini, parce que, ce qui m'intéresse, ce sont les choses qui vivent. Ce n'est pas de faire des choses qui sont mortes. C'est pour ça que quand je dis les œuvres du passé, c'est quand elles m'intéressent, quand elles sont porteuses de quelque chose. Si c'est pour ressortir un truc, franchement, qui n'a apporté pas grand-chose aux autres, je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour ça. Je n'ai pas d'intérêt pour... la musique, je sais pas quoi, enfin les valses de Strauss ne m'intéressent pas beaucoup, quoi. Enfin, vous voyez, c'est ces choses-là qui sont vraiment qui sont là parce qu'à un certain moment il fallait qu'elles soient là, c'est bien, mais elles ont été là pour une époque, pour un moment, puis après est-ce qu'elles ont un grand intérêt, je suis pas sûr. Par contre, il y a des œuvres, mais on les prend de la Renaissance ou même avant, jusqu'à nos jours, qui sont essentielles et qui sont intéressantes. Et c'est ça qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est de chercher chez des compositeurs des choses qui ont peut-être
des choses qui ont été négligées parfois.
Qui ont été négligées, des choses qui ont un potentiel d'avenir auquel on ne pensait pas. Ça n'a pas beaucoup à voir avec... La notoriété ou de tel ou tel compositeur, ça peut, hein, je veux dire, c'est pas, il s'agit pas de dire ceux qui sont connus et ceux qui sont pas connus, c'est pas ça du tout. Il s'agit de voir quels sont vraiment les atouts des uns et des autres et si pour chacun de ces compositeurs c'est une vraie nécessité d'écrire, en fait, parce que c'est ça la question.
Avoir joué depuis toujours la musique écrite par des compositeurs vivants, donc des compositeurs avec lesquels vous pouvez communiquer, c'est quelque chose donc qui est en vous depuis toujours. Est-ce que votre approche de la musique est autre, le fait de pouvoir être assis à côté de quelqu'un, enfin, lui téléphoner, de lui parler, d'aborder sa partition, plutôt que d'avoir à côté de soi plutôt un mort avec lequel, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vous ne pouvez pas communiquer? Comment, dans votre appréhension de votre art, vous voyez la donnée justement de la relation concrète entre un compositeur et un interprète ou un chef?
Mais je me suis rendu compte en fait que ce sont, et c'est là où la démarche me paraît essentiel, c'est que ce sont les vivants qui m'ont appris à mieux connaître les morts, en fait. Pour moi, c'est évident. C'est-à-dire que j'ai eu des idées pour faire Bach ou pour faire je ne sais pas qui, par ma connaissance de la musique d'aujourd'hui, en fait. C'est un regard qui est différent, forcément, parce que, comme je pense, les compositeurs peuvent l'avoir. Que seuls les compositeurs peuvent avoir. Donc le fait d'être dans la création d'aujourd'hui et d'en avoir fait beaucoup, et le fait de ne pas avoir coupé évidemment les ponts avec la musique plus ancienne, me permet de les aborder, alors maintenant plus qu'avant, avec sans complexe, d'une part. Et puis, parce que c'est pas si facile, étant donné qu'on met des catégories partout, hein, vous savez, quand on fait de la musique comme ci, il faut pas en faire de la comme ça, etc. Enfin, quand on fait de la musique vocale, il n'est pas possible de faire de la musique instrumentale, parce qu'on ne fait pas partie du même budget. Enfin, c'est aberrant, enfin, on est dans c'est complètement aberrant. Donc non, je pense que ça m'a apporté beaucoup, justement, de faire cette musique-là contemporaine, de côtoyer des contemporains pour le regard des anciens qui sont morts. Déjà, ça, c'est une chose très importante. Ensuite, moi, j'ai une admiration pour les compositeurs un peu incroyable, parce que j'ai toujours beaucoup appris à leur contact, en fait. Et finalement, je n'ai jamais composé parce que je me demande si ce n'est pas parce que je les ai trop côtoyés. Parce que ça m'a suffi. J'ai vraiment dans cette relation que j'ai toujours continuellement avec des jeunes compositeurs d'ailleurs, hein, une relation très, très, très forte. Parce que je trouve qu'ils ont... ils ont un potentiel d'invention, ils ont une culture, ils ont une curiosité que beaucoup de musiciens n'ont pas. Et ça, c'est formidable. Thank you.
sur justement l'éclectisme des répertoires abordés. Est-ce que justement, le mot curiosité que vous avez prononcé, c'est votre carburant aussi à vous ? C'est un peu c'est essentiel en tant que...
Ça me paraît essentiel. On ne peut pas faire cette musique sans être curieux de ce que les choses vont devenir, vous savez.
Est-ce qu'on l'est plus finalement ? Est-ce que vous avez l'impression de l'être plus aujourd'hui, par exemple, qu'il y a 20 ans ?
Je crois. Je crois vraiment, vraiment fortement, oui. Je suis davantage curieux pour ces raisons-là, essentiellement. J'ai aussi appris, par exemple, beaucoup de choses au contact des compositeurs. C'est le rapport à la poésie qui est très important. Les compositeurs sont toujours en quête pour ce qui concerne la voix de texte. Et finalement, ils vont fouiller des choses, ils vont chercher des choses qu'on n'imaginerait pas lire soi-même. Et ça, c'est on se nourrit aussi au contact de ces gens. Comme on se nourrit au contact de tous les grands artistes, c'est normal. Donc c'est un échange, hein. Peut-être que d'autres peuvent tirer d'interprètes des choses aussi, ça c'est évidemment évident. Mais moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié j'ai fait des rencontres formidables d'écrivains, de gens absolument formidables par le biais des compositeurs, parce que c'est leur nature même les pousse à faire ces rencontres, c'est obligé. Donc par ricochet, forcément, je les ai faites. Et ça, c'était très riche.
Promener la musique ailleurs que sur une scène d'un théâtre musical. Vous avez travaillé avec des chorégraphes, avec des gens de théâtre aussi, avec même certains compositeurs qui parfois, pour qui la scène, mise en scène, enfin en trois mots, sont importants. C'est aussi quelque chose pour vous dans la large palette qu'on vient d'évoquer, qui est aussi intéressant, important, vital justement.
Pour moi, c'était essentiel dès la création de Musica 13, parce que je me suis rendu compte, si vous voulez, quand j'ai créé Musica 13, à cette époque, existait le groupe Vocal de France, qui était le groupe qu'on pouvait entendre faisant de la musique de création. Et finalement, j'ai fondé Musica 13 un peu ce schéma, ce que beaucoup d'autres ont fait après. Enfin, ça a perduré, évidemment. Mais moi, je me suis rendu compte très vite que c'était une erreur, en fait. Parce que je me suis rendu compte que j'allais générer un catalogue d'œuvres à 12 chanteurs, à 12 voix, absolument gigantesque, si ça marche. Et puis, qu'est-ce qu'on en ferait ? Parce que les œuvres qu'on créait dans les années 80, c'était des sacrés morceaux. Enfin, il fallait vraiment des chanteurs redoutables pour pouvoir faire ça. Je me posais les questions, je me disais, est-ce qu'on n'est pas là en train de se tromper ? Je me posais des questions aussi parce que je voyais que dans d'autres pays, pas loin de chez nous, en Allemagne, les groupes à 12 n'existaient pas et qu'eux, ils fonctionnaient à 16. Je me posais des questions, pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent à 16 et nous, on fonctionnerait à 12 ? Hormis le fait qu'on peut avoir un total chromatisme, évidemment, comme ça, j'ai vite compris que c'était être à 12, c'était un empêchement pour faire certaines musiques. Par exemple, tout ce qui est du répertoire, plutôt à 4 voix, etc., ça sonne mieux à 16 qu'à 12, ça c'est évident. C'est moins dangereux, ça permet un souffle à l'œuvre, évidemment, plus important. Donc, j'ai commencé à ne pas négliger cet aspect-là. Et puis, très vite aussi, j'ai rajouté des instruments. Parce que là, je ne voyais pas du tout qu'on pouvait faire de la musique comme ça, a cappella tout le temps. Ce n'était pas possible. Donc, j'ai vite pensé à ça. Toutes sortes de choses. On a fait des combinaisons sonores absolument incroyables. Et ça, je le dois à Oana. Hein. Ce goût-là aussi, je le dois à Oana. Par exemple, quand j'ai commandé à Guérinel, c'est moi qui lui ai quasiment imposé une pièce pour clavecin, harpe, piano, enfin que des cordes qui, vous voyez, percussions et puis je ne sais plus quoi. C'est sûr que ça induit des choses très particulières. Beaucoup de compositeurs d'ailleurs sont passés par ces choses-là. J'ai souvent suggéré des choses d'un point de vue instrumental. Parfois ça a marché, parfois ça n'a pas marché. Mais en tous les cas, ça m'a beaucoup intéressé.
Et vous pensez que ces suggestions, c'est une façon d'être compositeur, d'une certaine manière ?
Ah ben sans doute, oui. Oui. Moi, j'aime beaucoup, avec beaucoup de compositeurs, d'ailleurs, on travaille un peu en direct. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que si on faisait ça ou ça, et que fois ça marche, que fois ça ne marche pas, je n'ai pas que des bonnes idées, mais de temps en temps, ça peut marcher. Enfin, j'aime ça, quoi. J'aime le timbre, il n'y a pas de doute.
Alors aujourd'hui, en 2011, je ne vais pas vous demander un des classements, mais quels sont les compositeurs actuels avec lesquels vous entretenez musicalement, vous ressentez vraiment quelque chose de vraiment majeur dans ceux avec lesquels vous travaillez, dans l'accomplissement du travail, dans les créations?
Oui, bien sûr, mais les citer, c'est évidemment au maître tous les autres, mais très récemment, je vais travailler avec Oscar Strasnoy, par exemple. Je travaille avec Alexandros Marqueas, je vous cite les compositeurs dits jeunes, qui ne le sont plus tellement finalement, hein, mais dits jeunes. J'ai eu la chance de pouvoir commander une pièce, et malheureusement on n'a pas eu la chance de pouvoir l'entendre, à Christophe Bertrand. On l'a créé de son vivant, mais il n'avait pas pu venir entendre cette pièce. Et puis, donc dans les très jeunes, hein. Et puis évidemment, c'est des gens que j'ai beaucoup que je défends encore beaucoup. On vient de faire un Alain Brévé avec une pièce de Philippe Gouttenoir, qui nous a écrit que des très belles pièces, qu'elles soient vocales ou instrumentales d'ailleurs, des pièces avec une pièce notamment pour 12 voix et 12 cordes qui est très très belle. Voilà, des gens comme ça, des gens qui ont inventé des choses, qui n'ont pas fait parfois que des bonnes choses, mais qui ont quelque chose qui est ouvert sur la création, qui n'est pas enfermé dans un dogme. Il n'y a rien de dogmatique chez ces compositeurs-là. Jean-Christophe Marty, on a fait, alors je vous ai cité des plus anciens, Anton Tatiet, qui était un ami de Oana, mais aussi Bruno Mantovani, enfin des gens comme ça, chez qui il n'y a pas de dogme en fait. Et ça, je trouve ça très bien.
On sent un éclectisme dans la création musicale contemporaine actuelle qu'il n'y avait pas il y a peut-être 30 ans.
Absolument.
Quel regard vous portez justement sur...
Moi, je trouve que c'est tout à fait sain. Enfin, je crois qu'il faut que les compositeurs... C'est à la fois très sain, et la seule barrière ou contrainte que je leur mettrai, c'est quand ils passent la barrière et qu'ils vont du côté de la facilité, si vous voulez. C'est-à-dire que l'œuvre est devenue une œuvre marchande, et non plus une œuvre qui va servir à l'intelligence. Donc c'est la seule chose, parce qu'on sait que nos compositeurs sont excessivement habiles maintenant, et que de cette habileté, évidemment, on peut très facilement en tirer des subsides tels que ça devient de la musique qui se banalise et qui n'a pas un grand intérêt, même si c'est forcément très bien fait. Je crois que c'est très important de jamais vendre son âme au diable. Mais il ne s'agit pas à ce moment-là d'un courant ou d'un autre courant. Vous voyez, c'est une chose différente.
Par rapport à soi-même.
C'est par rapport à soi-même, c'est par rapport à la société en règle générale, mais c'est pas par rapport à des dogmes. C'est ça qui me paraît très important. Il y a moins de dogmes, en tout cas, dans la création à l'heure actuelle, et ça me paraît essentiel.
Quelles sont vos envies musicales, les répertoires, les choses? On n'a pas passé en revue l'intégralité de tous les répertoires et tout ce que vous avez fait depuis vos débuts, mais quelles sont vos envies dans les mois, dans les années à venir? Est-ce qu'il y a des répertoires, des compositeurs avec lesquels vous aimeriez travailler ou approfondir certains travaux?
Bah, vous savez, je vais faire... Moi, j'ai quelques projets, si vous voulez, qui me tiennent à cœur, mais qui sont des projets, alors là, typiquement musique à 13, et pour lesquels on va évidemment faire des choses assez fortes. Je pense par exemple à un projet qu'on a avec Zad Moultaka. Zad Moultaka est un compositeur avec lequel on a eu beaucoup de chance, parce qu'il a écrit quelques pièces pour nous absolument formidables. Il y en a une, L'autre rive, celle qu'on donne au Festival d'Aix cet été, ou à Marseille à la fin du mois de juin, et puis en Fontevraud, je crois, en juillet aussi. C'est une œuvre absolument formidable, mais qui est pleine d'inventions. Alors voilà quelqu'un qui est dans l'idée très proche de Oana, hein. Ça, c'est incroyable. Parce qu'il y a une inventivité, il y a quelque chose, il y a une invention dans la forme, etc. Et ça, je crois que c'est très important. C'est-à-dire, pour moi, ce qui me paraît très important, c'est d'être capable de mettre le public au cœur du son, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire de leur donner des chocs sonores qui ne sont pas des chocs de décibels, mais des chocs parce qu'ils sont à l'intérieur du son, mais comme on l'est au mieux. c'est pas de la musique poussée grâce à des potentiomètres, c'est de la musique qui voilà. Et cette idée là enfin ce que je, par exemple avec Zad dans l'autre rive, le concert se fait sur deux salles en même temps, donc ça a un côté assez incroyable. Mais il y a une autre idée qui est pour 2013, vous savez que Marseille va être capitale urbaine de la culture, donc en 2013, Zad Moultaka va écrire une grande œuvre qui met le public au cœur du son, et avec des amateurs, et qui va être une œuvre très forte, j'en suis absolument convaincu. En regard de cette œuvre, il y aura une œuvre de Jesper Nordin, qui est un Suédois, et donc le regard d'un Libanais, d'un Suédois, sur un même texte, texte de Sappho, ça m'intéresse. Et ça, c'est moi qui posais les conditions là de ces choses-là, vous voyez. Ça me plaît parce que ça les oblige, les uns et les autres, à se positionner un peu. Que sont-ils vraiment l'un par rapport à l'autre, l'un du nord de l'Europe et l'autre de l'extrême sud de l'Europe, hein, bien au-delà même. Et ça m'intéresse. Ce sont ces choses-là qui m'intéressent, plus finalement que les compositeurs eux-mêmes. Hein. Mais ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que Zad pour faire cette chose-là. Donc je pense à lui. L'année prochaine, c'est Oscar Strasnoy qui fera quelque chose dans ce même ordre. Et on donnera la pièce en premier au Festival d'Île-de-France ici dans la région parisienne. Même chose, même principe, hein, puisque travailler avec des amateurs et des professionnels mélangés et mettre le public au centre du dispositif. Donc voilà des choses que j'ai vraiment fortement envie de faire. Après, il y a des choses qui sont plus d'ordre scénique, que vous savez qu'on a fait un gros travail avec les contes de Musica 13, voilà, donc avec toutes ces choses-là qui continuent. À la fin de l'année 2011, on aura quelques représentations à l'amphithéâtre de la Bastille autour d'une œuvre d'un compositeur que j'aime beaucoup, qui est Tapio Tuomela, un Finlandais, qui a une façon d'écrire qui n'appartient qu'à lui, et qui est vraiment très original et très sensible. Et cette chose-là, j'aimerais qu'elle dure. Non pas cette œuvre qu'on va faire tourner encore plusieurs fois, mais cette idée d'avoir la possibilité de travailler sur la scène encore, parce que ça, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, je crois que ça fait beaucoup de bien aussi à mon groupe de savoir qu'il y a cette possibilité-là. Et je suis sur un projet de cantates qui seront mises en scène aussi, de cantates policières, donc qui seront mises en scène à partir de 2013, effectivement.
Vous avez parlé de votre curiosité, votre éclectisme qui était plus fort presque aujourd'hui qu'autrefois. Quel mélomane vous êtes ? Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique chez vous ? Est-ce que vous allez au concert ? Est-ce que... Au-delà toujours de l'aspect, j'allais dire, entre guillemets, professionnel, d'avoir la tentation de l'écouter. Mais quand on est vierge de tout ça et qu'on devient juste un mélomane, quelqu'un qui écoute de la musique, comment vous êtes aujourd'hui ?
Alors, comme beaucoup de musiciens, j'écoute moins de musique qu'un mélomane. Parce que j'en fais beaucoup et que, voilà, sans doute ai-je moins besoin d'en écouter qu'avant. Besoin de... parce que je commence à avoir un certain background avec tout ça, mais j'aime beaucoup évidemment en écouter. J'aime surtout évidemment en écouter en concert plus que... alors là c'est là où c'est plus difficile parce que évidemment on est très pris nous-mêmes, enfin, vous connaissez évidemment le principe, hein. Mais j'aime beaucoup les écouter en concert. Ceci dit, j'aime écouter des choses que je ne pratique pas.
Souvent, ça arrive, certains musiciens qui préfèrent justement écouter des choses, finalement, qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes.
Oui, mais c'est des choses que moi, par exemple, le jazz, j'aime beaucoup le jazz, et je trouve que c'est la musique du XXe siècle, en fait. Hein. Et j'aime bien, en fait, écouter du jazz. Maintenant, en concert, j'ai un plaisir fou à aller écouter, je sais pas quoi, enfin, le mandarin merveilleux, ça me fait beaucoup, beaucoup vraiment plaisir. Ou bien, je ne sais quel. Non, je suis très ouvert avec ça. Je vais volontiers au concert chaque fois que je le peux. Je n'aime pas aller au concert pour m'ennuyer. Ça, alors là, par contre, c'est, pour moi, c'est insupportable. C'est, ça, c'est une chose qui me... Ou quand, vous savez, quelquefois, on est un peu obligé d'aller entendre des choses parce que c'est comme ça. Quand c'est pas bien, ou quand j'en ai marre, ça. Voilà. Mais par contre, quand c'est bien, j'adore, finalement.
L'enseignement, la transmission, c'est quelque chose de... On sent essentiel, même dans votre discours, dans ce que vous avez dit, quand vous avez même évoqué tout à l'heure, travailler parfois avec des publics complètement amateurs, voire vierges de toute base, c'est quelque chose, comment vous enseignez aussi, enfin, comment tout cet aspect-là de votre vie compte?
Ça me paraît essentiel, c'est-à-dire, premièrement, j'ai mesuré à quel point c'était indispensable d'avoir un rapport avec l'enseignement, parce que ça remettait les pendules à l'heure. C'est-à-dire que... Quand on enseigne, on mesure le fossé qu'il y a entre un point d'arrivée qui n'est jamais un point définitif et puis un point de départ. Donc je crois que ça relativise beaucoup les choses et puis ça permet d'être plus simple en fait. Donc moi, et puis alors l'autre chose, c'est que moi j'ai toujours enseigné la direction et je le dis vraiment, j'ai beaucoup appris de mes étudiants. On apprend beaucoup à enseigner aux autres les choses. On voit les défauts des uns et des autres, on voit les qualités. Et finalement, vous savez, l'enseignement, ce n'est jamais qu'un miroir. Donc, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé. Et puis, ce qui me passionne, c'est de voir la passion naître d'un enseignement. Vous voyez, quand on enseigne quelque chose et puis que les jeunes se passionnent pour ce que vous êtes en train de leur dire, c'est à la fois formidable, c'est une terreur, parce que est-ce qu'on les met pas dans une voie qui est bouchée, ou vous savez, ces peurs de notre époque là. Mais je me dis non, parce que la passion, ça, c'est une passion. Il faut laisser aller les choses. Et je pense que ça, c'est une chose importante. L'autre aspect de l'enseignement, c'est la formation des publics. Alors que ce soit l'enseignement auprès d'étudiants que moi, je connais assez bien, ou que ce soit des publics vierges, je pense là que c'est essentiel. Parce que si on ne forme pas notre public de demain, si on n'habitue pas les gens, si je fais tout ce travail avec des amateurs, c'est pas simplement par de souci de faire des choses comme ça, enfin grandioses, avec beaucoup de monde. C'est justement pour que, faisant la musique que je pratique et que je défends, ils aillent l'écouter. Et ça marche d'ailleurs. Ça marche formidablement. À Marseille, nos concerts sont pleins parce que nous faisons ce type de travail-là auprès d'un public amateur qui maintenant est passionné. Ça me paraît essentiel. Cette transmission est pour moi une chose qu'il ne faut jamais négliger.
Merci Roland Hérabédien.
Merci à vous.
Oh.
Buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.